Guillaume Atelan, alias The Superman's Lovers, est un artiste parisien pionnier de la French Touch, courant funk électronique ayant vu le jour à la fin des années 90. Actuellement en préparation d'un nouvel album, dont la sortie est prévue pour février ou mars 2020, The Superman's Lovers avait sorti en 2018 l'EP Clocks Soccer, après Walking in the Moon en 2017 sur son label Word Up Records. Rencontre avec Guillaume Atelan, juste avant son concert au MAMA Festival 2019, on évoque avec lui ses débuts.
Eh ben écoute, oui tout à fait, je suis ravi qu'aujourd'hui on puisse me mettre dans la catégorie des pionniers de la French Touch. Effectivement c'était une énergie, une vibe qu'il y avait à l'époque et après c'était surtout beaucoup de musiciens en fait qui à un moment ont senti que l'électro était la musique qui allait devenir prédominante. Et c'est dans les années 90, et puis certains d'entre nous, bah, comme moi, comme d'autres, ont décidé de passer le pas, et puis on troquait le groupe contre des machines. C'est vrai que d'un côté, quand même, Daft Punk, outre le fait que ce qu'ils produisaient, ce qu'ils sortaient, était génial, à l'époque, c'était pour, je veux dire, de voir deux gamins de 21, 22 ans sortir des prods d'eux-mêmes, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout la norme. C'est-à-dire que ça n'existait pas l'autoprod à l'époque. Tu étais obligé de passer par des grosses maisons de disques, des gros labels. Il fallait rentrer dans le show business, dans l'industrie du disque. Puis soudain, il y a deux mecs qui te montent la voix, qui disent « Bah non, regarde, nous on y arrive. » Ça donne l'impression qu'ils ne connaissent personne. Enfin, et c'est vrai que c'était jouable. Moi, je ne connaissais absolument personne. Et j'ai monté mon petit label. Et au moins, ils nous ont donné l'espoir et l'énergie, en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucune autre voie à part celle du show business normal, qui était, qui pour moi était un truc irréalisable, quoi. Donc du coup, ouais, ça a ouvert une voie à plein de gens qui n'étaient pas forcément forts en sociabilité ou en RP ou ce que vous voulez, qui soudain avaient une occasion de pouvoir sortir leur propre disque.
Pour faire un petit peu une rétrospective aussi, avant de parler des projets d'aujourd'hui, à l'époque, les radios ont quand même très vite joué le jeu, ont très vite accepté aussi votre musique.
Après, ils n'ont pas joué le jeu, hein, c'est le public qui décide. Eux, leur métier, c'est ils postponent un peu quand même l'envie du public. Ouais, quand Starlight, j'ai commencé à sortir les premiers vinyles et tout ça, j'avais effectivement toutes les grosses radios françaises qui m'appelaient, alors que j'étais même pas signé, j'avais rien du tout. J'avais 22 ans, j'étais un minot, quoi. Et les DA m'appelaient de grosses radios, les plus grosses radios françaises m'appelaient. Et ils me disaient, mais c'est toi qui as fait ça, mais on peut jouer, t'es chez qui? Je dis, je suis nulle part, je suis chez moi. T'es chez qui? Je suis chez ma mère. Et donc du coup, mais je pense que c'était juste en fait une... Ils répondaient à une demande, c'est tout. Et la demande, c'était celle-là, quoi. C'est-à-dire que les gens voulaient... toute ma génération, en fait, souhaitait avoir... surtout les radios jeunes, en fait, le public souhaitait avoir ce genre de musique, quoi. Et en fait, je pense qu'ils ont vu aussi dans Starlight, ils ont vu... à l'époque, c'était surtout Starlight, en fait, qui avait marqué les esprits. Et je pense qu'ils ont vu aussi... c'était le premier morceau French Touch en format chanson. C'est-à-dire qu'il y avait eu Lady Mojo, il y avait eu Stardust, Music Sans Bella Vizio. Il y avait eu beaucoup de morceaux avec des gimmicks. Enfin, c'était des gimmicks. Et là, soudain, c'est le premier morceau qui débarque en format chanson. C'est couplet-refrain. Et là, soudain, pour les radios, c'était du pain béni, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient exactement... Et c'est marrant parce que moi, je l'ai vraiment fait sans penser à ça du tout. C'était quelque chose de super spontané. Parce que j'ai une culture aussi outre la musique électronique et le funk que j'ai toujours adoré. J'ai aussi une culture très pop et classique et tout ça. Donc,
tu as fait du piano.
J'ai fait conservatoire pendant 10 ans, tout ça. Donc, j'avais une culture mélodique, en fait, qui fait que j'ai toujours réussi à aimer les formats chansons, tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui est venu naturellement. J'étais surpris de voir à quel point ils en avaient besoin, en fait. Parce qu'ils cherchaient, je pense, à l'époque, ils cherchaient un titre comme ça, quoi. C'est un titre qu'ils allaient pouvoir diffuser au grand public dans le format French Touch, quoi. Automatic.
in your electrical romantical. Trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. You and me, yeah.
Peut-être quelques mots aussi sur les bootlegs, puisqu'en fait, là, très récemment, donc, Bob Sinclair a créé un projet qui s'intitule Electronico Romantico, qui reprend, on va dire, un petit peu les standards de cette vague première, on va dire, de French Touch, où vous faites une sorte de battle entre une de ces musiques et puis Starlight. Est-ce que tu peux revenir aussi sur cette collaboration? Comment tu t'es dit, ok, bon, ben, je veux bien monter sur le ring avec lui?
En fait, on s'était vu sur un festival en Australie, il y a un an, et puis on discutait, machin, tout ça, et puis il me racontait qu'il sortait un titre avec Rob Williams, et je lui ai dit, j'aimerais bien l'écouter et tout, envoie-le-moi. Et en fait, il m'envoie une version, en fait, du titre, mais en fait, il a pris l'instru de Starlight, et puis il a mis la voix de Rob Williams dessus. Et puis ça sonnait bien, quand j'ai dit putain, il y a un truc et tout. Moi, je me fais, ouais, il se passe quelque chose. Et tout. Je me fais, ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis du coup, on a décidé de creuser un peu l'histoire. Et puis ça a été rebossé. Et puis pour ça. Puis ensuite, c'est lui qui m'a parlé de l'idée peut-être de faire un délire justement un peu combat de boxe, tout ça, machin et tout. On s'est dit, ouais. Et puis moi, j'ai joué le jeu. Et puis c'était marrant. Et je trouvais que c'était la première fois, parce qu'il y a eu des bootlegs de Starlight. Il y en a, avec Starlight, il y en a des. En veux-tu, en voilà, quoi. Mais c'est toujours été des bootlegs foireux. Enfin, j'ai jamais eu un bootleg qui m'a plu. Et là, c'était la première fois, je trouvais qu'il y avait vraiment un truc sympa. Donc, je me suis dit, autant y aller, parce que c'est rare quand j'arrive à être conquis par un bootleg avec Starlight.
Le métier de DJ et des bootlegs éventuels, est-ce que finalement ça t'a intéressé à un moment donné, on va dire, dans ton parcours autre que créatif?
Alors, en fait, le métier de DJ, pour moi, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. C'est pas mon métier principal. Je me considère pas comme DJ vraiment, parce que c'est un vrai métier. Enfin, faut pas croire, faut pas prendre ça, faut pas s'imaginer que c'est un travail en amont. En fait, c'est pas le boulot de DJ. Il est pas quand tu passes des disques. Hein, il est pas quand tu mixes. Il est avant. Enfin, c'est tout le travail de recherche que tu vas faire pour trouver des sons intéressants, te créer une identité sonore avec des choix. Tout ça, tout le travail, il est là d'un DJ, il n'est pas quand il mixe, parce que quand il mixe, au final, c'est juste même pas 1% du travail du DJ, quoi. Donc, et c'est un boulot qui demande beaucoup de temps, et moi, ce temps, je le consacre plutôt plus à la prod, à la composition, Je suis beaucoup plus dans ce genre de recherche. Oui, bah moi je suis indépendant dans l'âme, parce que personne ne me dit ce que je dois faire. En gros, non, moi je suis vraiment partisan de l'indépendance. J'ai choisi de faire de la musique pour être libre, sinon j'irais vendre des t-shirts, c'est tout. Non mais après, il faut faire des choix, voilà. J'ai pas envie de faire semblant, quoi. Donc si je dois faire de la musique, bah, je le fais vraiment, et puis je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Bon, après tu t'adaptes aussi, hein, t'acceptes aussi un peu les règles du marché et tout, mais en même temps, bon, bah ouais, si tu fais ce choix-là de faire de la musique, il faut le faire, quoi. À ce moment-là, sinon, faut pas se mentir à soi-même, sinon tu vas vendre des t-shirts ou des yaourts, quoi. Mais non, mais tu fais pas semblant, quoi, c'est tout, quoi. Le seul truc, c'est de faire les choses à fond, quoi.
Hi, brother and sister. This is Cool speaking. 'Cause we're talking about house music tonight, you know? So when I say the alright, you say the okay. And when I say the away, you say the c'est bon. I'm gonna do just a little example, a little extra of what expected tonight, you know? I say alright,
okay,
away,
c'est bon.
Alright,
okay,
away.
Le titre éponyme de l'EP sorti en 2011 par The Superman's Lover, intitulé « C'est bon ». Donc, label World Up Record, tu accompagnes d'autres artistes. Peut-être quelques mots sur ces artistes que tu accompagnes et puis aussi sur ce regard de cette nouvelle scène qui foisonne d'électro et de différents types de styles d'électro.
Moi, je produis des artistes vraiment sur lesquels j'ai des coups de cœur. C'est rare quand je produis des artistes. Bizarrement, il y a 2-3 ans, j'ai kiffé sur plusieurs artistes en même temps. Donc, j'ai eu une période de 2-3 ans où j'ai sorti beaucoup de choses. Là, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je ne sors plus rien parce qu'il n'y a rien qui me botte. Après, là, je recommence à m'intéresser à des trucs, mais pas en France. Là, j'ai peut-être signé justement des artistes de contrées lointaines. Bah, là, je regarde un peu bizarrement un peu sur les pays de l'Est, ce genre de choses, où il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Ils sont bizarres. Mais, mais ouais, donc voilà, après je cherche.
Alors peut-être quelques mots sur le set de ce soir.
C'est pas un set, c'est un live, donc en voilà. Fait je joue vraiment live avec moi, j'ai les machines sur scène, tout ça et tout. Bah, je vais jouer les titres des nouveaux, des anciens, dès qu'ils ne sont pas encore sortis. Et donc voilà, ça va. Et ça arrive. Voilà, je vais me reconcentrer plus sur le live que sur le DJ set. Clockstalker, c'est sorti il y a plusieurs mois. Oui, bah, ouais, voilà, il y a un nouvel album en fait, qui arrive. Là. Je vais piocher un ou deux titres des anciens EP. Mais il y aura quand même vachement une. Il y aura beaucoup de nouveaux titres. Et voilà, et je raconte une histoire qui m'est arrivée pendant un an. Là, donc. Bah, vous aurez la surprise, quoi. Ah bah, l'Instagram, SuperAnLovers, de SuperAnLovers, tout attaché, au pluriel. Bah, parce que je suis psycho et il y en a plusieurs dans ma tête.
C'était Guillaume Atlan, alias SuperManLovers, rencontré à Paris lors du Mama Festival 2019. Pour connaître toute son actualité, un site internet, www.thesupermanslover.bandcamp.com. On termine l'entretien avec un dernier extrait issu de l'EP Clocksucker, Eyes on You.
Every time you smile back.